De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Alice Carrey, du rap résistance à l'agression publicitaire. J'ai laissé entendre que tu avais des soucis avec la justice.
Oui, du coup, c'est voté pour une action d'il y a 2 ans. C'est pour illustrer aussi finalement la répression que peuvent encourir des militants anti-pub. Que ça soit donc avant rap, il y avait ce qu'on appelait le collectif des déboulonneurs qui faisait aussi pas mal d'actions et qui a eu de nombreux procès notamment. Et en fait, c'est dire à quel point finalement s'attaquer à la publicité, ça met mal à l'aise le capitalisme d'un certain côté. On a souvent eu des problèmes nous avec la police, que ça soit la police municipale ou nationale, pour des actions de sensibilisation donc sur la publicité, donc des actions de recouvrement en fait des panneaux publicitaires extérieurs.
Et c'est des actions déclarées.
Voilà, c'est des actions qu'on déclarait à l'époque en préfecture et qui se faisaient sans dégradation. Surtout, c'est ça aussi qui est un peu important. Donc, en fait, on recouvrait le panneau de papier craft avec du scotch. Ça s'enlevait. Hein, et après, on écrivait des messages dessus. Donc, soit en détournant un peu le message publicitaire, soit carrément en mettant un message.
Ouais, je pense que certains auditeurs ou auditrices ont déjà vu hein, dans le centre-ville de Toulouse, quand tu suis les allées. Effectivement, on peut vous suivre. Hein, parce que on voit les panneaux sucettes, là, effectivement, recouverts de papier craft avec des tournements de slogans, des punchlines.
C'est ça, c'est très créatif en fait. Donc c'est super intéressant parce que ça nous permet de réfléchir en même temps à l'impact que la publicité a sur nous et quel est vraiment le message qu'elle véhicule et comment on pourrait le détourner d'une autre manière. Donc moi, si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à venir. C'est des actions qui se passent généralement le dimanche matin. Ouais. Parce qu'en fait, le dimanche, les personnes qui travaillent à remplacer les publicités dans les panneaux, elles ne travaillent pas. Donc du coup, ça les laisse au moins une journée. Et donc, on a déjà eu pas mal de problèmes. Donc des policiers qui nous faisaient des contrôles d'identité. Et des fois, on en a qui nous disent « Non, mais ce que vous faites, ça, c'est pas normal et tout. » Donc là, on leur dit quand même qu'on a fait une déclaration en préfecture. Et donc des fois, en fait, il faut savoir que des fois, ça ne marche pas. Et donc, on se retrouve avec des policiers qui nous disent qu'on a inventé ça, que nous-mêmes, on l'a fait. J'invente pas ces documents, hein, je vais généralement à la préfecture pour qu'elle me mette un coup de tampon. Et donc là, c'est une action qui est allée très loin, puisque finalement, j'ai eu une amende derrière. C'était pour une action il y a 2 ans, en février 2022, donc que j'ai contestée parce que je trouvais qu'elle était pas justifiée, en fait, sur une action sans dégradation et puis surtout déclarée en préfecture. Suite à la contestation, je suis convoquée au tribunal, du coup, ce vendredi, donc à 13h30, pour m'expliquer par rapport à ça et pour contester cette amende. Mais aussi de pouvoir parler de cette liberté de réception qu'on aimerait mettre en place et surtout qu'en fait, ces actions de désobéissance civile, finalement, c'est un cas de nécessité. Puisque la publicité a quand même des conséquences néfastes, on en a parlé tout à l'heure, sur nous. Et donc, que nous, on considère qu'en tout cas, faire ça, c'est la nécessité.
Et puis, de toute façon, tu peux aussi te défendre à une clé triangle et voilà, être autonome et t'amuser aussi.
Voilà, il y a plein d'autres modes d'action.
Il y a plein d'autres modes d'action.
On vous laisse être créatif avec les publicités. Franchement, n'hésitez pas à tout faire fonctionner.
Encore un grand classique de la publicité sexiste. Avec voilà, une fille très 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 jeune, habillée de manière relativement dénudée, alanguie, elle a ce qui ressemble à une barre de pole dance, donc c'est aussi un peu sexualisant. Tout est rose évidemment, c'est le code couleur de la féminité supposée. Et puis ce nom de parfum, au tendre, voilà, toujours cette féminité douce, respectueuse, à base de petites fleurs et de roses, et puis de tendresse, de douceur, etc. Donc un grand classique du publisexisme. Le publisexisme, c'est l'ensemble des publicités sexistes, c'est-à-dire des publicités qui ciblent, qui visent un genre reproduisant, en diffusant toutes sortes de stéréotypes et d'injonctions. Et ce qu'on remarque aujourd'hui en France, c'est que le publisexisme, il vise en très grande partie les femmes. On a plus de 80%, presque 90% des publicités observées qui ciblent le genre féminin.
Là, on va parler du publisexisme. Les messages publicitaires qui sont stéréotypés, ils recourent de façon répétitive à des représentations et des injonctions similaires. Lorsque ces messages stéréotypés ciblent certains groupes sociaux, ils contribuent au développement de normes, souvent caricaturales, voire discriminantes. C'est notamment le cas en ce qui concerne la représentation des femmes et minorités de genre dans la publicité. Les corps sexualisés, épilés, blancs, minces, jeunes, en position de soumission, de séduction, d'infantilisation, de travail domestique.
Le publisexisme, gros morceau de la pub, grave, hein, parce que souvent même, en fait, d'avoir un corps de femme, ça permet de faire vendre un produit, donc il n'a strictement rien à voir. Hein. Mais en fait, pour vendre un sac à main, on a besoin de voir une femme nue. Alors, c'est quand même un peu sidérant. Et puis des fois, on voit aussi des pubs de femmes qui mangent des yaourts sous la douche. Alors, je ne sais pas qui fait ça. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. mais c'est quand même un peu étrange comme manière de fonctionner. voilà, cette normatisation des corps, et surtout, on nous a appris très tôt aux femmes à justement être dans l'espace public, surtout pas dénudées, pas trop dénudées. Si on veut vraiment se poser la question de la discrimination, on peut poser la question à quelqu'un, est-ce que c'est ok pour toi, à partir d'un certain âge, de pouvoir montrer ton torse sans avoir de remarques? Bah, là, ça permet de voir que finalement, il y a une discrimination entre les hommes et les femmes, puisque c'est généralement ok pour les hommes. Mais par contre, pour les publicités, pas de problème, on peut montrer des femmes torse nues. Donc on a quand même un double discours dans l'espace public. Et nous, on avait cette idée, bon, on l'a pas trop encore fait, mais d'une action qui pourrait être faite sur finalement se mettre torse nu dans l'espace public à cause d'une publicité, et se dire, bah, voilà, finalement, la publicité, elle est là, il n'y a pas de problème, donc pourquoi moi, il y aurait un problème avec mon corps ? Donc déjà, ce double discours, c'est vraiment insupportable à entendre et à voir. C'est vraiment une idéologie qui est très néfaste, parce qu'il faut ressembler à la publicité, il faut être comme elle, donc c'est-à-dire bah, mince, hein, on va pas se mentir, voire maigre finalement. Donc ça entraîne de l'anorexie par exemple chez les jeunes femmes.
Des troubles alimentaires.
Des troubles alimentaires, voilà, complètement. Des corps blancs finalement. Et puis effilés, on l'a dit aussi. Donc ça, c'est quand même bah pareil, finalement, ça entraîne un coût pour les femmes, un coût supplémentaire, de se dire, si je veux ressembler à ce modèle-là, ça veut dire qu'il faut que je m'épile. Donc s'épiler, ça veut dire bah, acheter de la crème ou un rasoir, donc ça a un coût. On montre une certaine image à laquelle il faudrait ressembler.
Souvent, les femmes, elles sont vraiment représentées d'abord avec un regard très masculin. Ça va souvent être un homme qui va être derrière l'objectif ou derrière la campagne, ou même certaines femmes, on a intériorisé en fait ce qu'on appelle le male gaze. C'est toujours le même modèle qu'on représente, en fait, et ça va être quelque chose très sexualisé. Par exemple, dans le monde du luxe, on va retrouver énormément de codes du porno chic, comme on l'appelle, pour vendre des sacs à main, des chaussures, qui sont souvent même pas sur l'affiche d'ailleurs.
Bon, ça me fait directement penser à l'imaginaire pornographique, là. Cette posture, la bouche, les yeux, le regard, les cheveux un peu décoiffés. Ouais.
Par exemple, sur cette campagne-là, du coup, on voit l'actrice qui est dans une posture qui est finalement assez peu naturelle, où elle a l'air d'être dans l'attente de quelque chose, elle a un regard presque aguicheur, elle a souvent la bouche entrouverte, elle va se toucher elle-même le corps d'une manière assez sensuelle. Et en plus de ça, on a vraiment le corps qui est suggéré comme nu, alors que ben, peut-être il ne l'est pas, mais enfin, là, concrètement, elle a quand même le sein découvert, elle a juste son bras qui le cache. Le parfum en lui-même, l'objet, il a été rajouté sans doute en post-production. Finalement, il a une place qui est proportionnellement très réduite par rapport au corps de la femme, en l'occurrence.
Et puis, on en parlait aussi, cette histoire de soumission. Donc, de soumission parce que les femmes sont souvent dans des positions déjà qu'elles n'ont pas trop d'habitude, mais aussi souvent en train de regarder un homme. Ou en tout cas d'avoir une attitude passive. Donc ça a été vraiment montré. Donc on parlait notamment des pubs pour enfants. Ça a vraiment un gros impact, puisque derrière, il y a aussi des ventes d'objets qui vont se faire spécifiquement à des destinations des petites filles et spécifiquement à destination des petits garçons. Et c'est très genré, finalement.
Ouais, c'est ça, ouais.
Les objets.
Oui, la vision genrée, en fait, des représentations. Dans les injonctions, il y a aussi la jeunesse.
Aussi, oui. Donc notamment avec le fait d'avoir une peau lisse, une peau très lisse, donc les crèmes dépilatoires, les crèmes pour avoir une peau brillante, lisse, toujours jeune finalement. Et aussi c'est des corps, les corps un peu ridés, un peu plus vieux, qu'on supporte pas de montrer dans l'espace public.
Ou pour vendre des crèmes. Ouais.
Et ça finalement c'est quelque chose de très normatif. Ça veut dire que à partir d'un certain âge, on considère que on n'a plus le droit à être dans l'espace public parce que notre corps ne correspond pas à la norme. Donc c'est quand même, ça participe à l'invisibilisation des personnes qui sont un peu plus âgées, mais je ne vais même pas dire des personnes âgées, puisque c'est à partir des fois de 40-50 ans. Enfin, moi j'estime qu'on n'est pas vieux à 40-50 ans, en fait. C'est pas normal de considérer ça.
Tu transformes ton corps en outil de combat, en fait. Un combat contre toi-même, puisque ton corps n'est plus du tout représenté ou représenté sous une forme qu'il faut absolument modifier via des régimes, via des crèmes anti-rides.
Voilà, nous, on est vraiment pour la diversité des corps. Et c'est important, justement, de montrer que chacun, chacune doit être bien dans sa peau. C'est ça le plus important. Et ça, c'est pas possible tant qu'on aura ces modèles publicitaires qui nous disent qu'en fait, une femme parfaite, elle est comme ça. Et sinon, c'est qu'on a un peu raté notre vie d'un certain côté. Un peu sur la soumission, la soumission qui est vraiment présente et qui se fait par divers moyens. Il y a aussi l'humour finalement,
ah oui,
l'humour qui
fait,
peut être utilisé comme moyen dans la pub pour rabaisser et dénigrer les femmes. Donc la soumission aussi par le regard, et souvent on parle de male gaze finalement, puisque les publicités sont vues à travers des regards d'hommes et pas du tout de femmes. Et d'ailleurs, des fois, c'est vraiment flagrant pour certains objets. Bah, j'ai en tête une publicité pour des motos qui disait « Bon, bah, si t'as cette moto, tu pourras avoir plus de femmes. » Donc là, on considère vraiment que les femmes sont des objets et que l'objet de la moto va permettre d'avoir d'autres objets.
Dans les représentations des femmes, on a très souvent des femmes qui vont avoir des préoccupations très consuméristes, hein, qui sont obsédées par les objets, par leur propre image, par leur beauté, par leur corps, et puis qui sont aussi préoccupées par un certain nombre d'activités qui leur reviennent traditionnellement dans la sphère sociale, typiquement le soin des enfants, le travail domestique, le travail du care, et puis encore et toujours le travail de l'apparence.
Au-delà de l'objectification, souvent dans la publicité, on va faire passer les femmes comme bêtes et pas drôles. On a juste des potiches, en fait, que, quand elles ont la chance d'avoir une tête qui rigole aux blagues d'un homme ou ce genre de choses. On s'aperçoit aussi que les produits roses, les produits à destination des femmes, sont souvent plus chers que les produits à destination des hommes, qui eux sont souvent bleus. Et c'est ce qu'on appelle la taxe rose, et c'est une des choses qu'on dénonce aussi avec le compte de Pépites Sexistes.
J'ai lu un bouquin qui s'appelle « Contre les publicités sexistes » de Sophie Pietrucci aux éditions L'Échappée. Elle disait qu'ils n'étaient pas contre la nudité. Ce qui, eux, leur importait, c'était l'utilisation faite dans un cadre commercial. Je ne sais pas vous, votre position. Ce n'est pas la nudité en soi qui est critiquable, ou ce n'est pas un tabou, les représentations liées à la nudité. C'est le fait de l'utiliser pour vendre des yaourts, ou que ce soit vraiment purement quelque chose de mercantile, en fait.
Oui, du coup, notre position, c'est vraiment l'interdiction du sexisme dans la pub. En fait, la publicité, actuellement, on fait vendre des produits en utilisant des ressorts sexistes. Donc c'est ça vraiment qui nous pose problème. Mais alors, nous, du coup, oui, c'est vraiment associé aux produits. On veut interdire la représentation. Alors, c'est même pas des humains dans la publicité. On va carrément jusqu'aux humanoïdes.
Okay.
Puisque, en fait, sinon, c'est trop facile de mettre des seins à une girafe, par exemple. Et du coup, c'est quand même sexualisé et ça permet quand même de faire vendre un produit. Et on est toujours sur des ressorts sexistes, finalement. Mais effectivement, voilà, c'est vraiment associé au produit. C'est la méthode de vente qui nous pose problème.
Parce que la nudité, ça pourrait être réfléchir autour d'un tabou, par exemple. Là, on n'est pas dans une réflexion philosophique ou émancipatrice, comme tu dis. C'est pour vendre du jus d'orange, j'en sais rien. Pour vendre quelque chose, c'est vraiment du pur business, quoi.
Oui, complètement. C'est pour ça que vraiment que je parlais de double discours, de double standard tout à l'heure, parce qu'on a à la fois cette injonction à justement ne pas être nu, à ce que la nudité soit quelque chose de tabou, et ça nous a appris vraiment très très tôt finalement. Mais d'un autre côté, il y a ces publicités qui permettent de faire vendre un produit à travers la nudité, la sexualisation et le sexisme.
Aujourd'hui, on a principalement des représentations. Ça peut être un cadrage photographique, typiquement ce qu'on appelle le tronçonnement des corps. Et on remarque que les femmes, bien plus que les hommes, sont représentées comme des corps morcelés. On va éliminer leur visage, leurs mains, toutes les parties du corps qui désignent le plus la personnalité, en fait, pour se concentrer sur certaines parties de leur corps, en général celles qui sont le plus sexualisantes, les seins, la bouche, les fesses et j'en passe. C'est-à-dire qu'on voit des femmes en position soumise, comme si on leur prenait quelque chose, comme si on les forçait à donner leur image, et c'est une forme de violence.
Voilà, on est au cœur là, vraiment, du regard, en fait, lié à la sexualisation, parce qu'on représente les corps féminins comme des objets de jouissance et de consommation qui sont mis en scène, où on voit des femmes dont la seule préoccupation semble être de séduire et de susciter le désir sexuel, la plupart du temps d'ailleurs hétérosexuel, par leur apparence physique ou leur posture. La sexualisation du regard, tu te demandes vraiment, ou je dirais même la cohérence entre l'acte d'achat et la nudité liée au corps féminin, quoi.
Oui, c'est à la fois un peu de choquer, d'interpeller, mais aussi voilà, de construire d'un certain côté un modèle de société qui est basé sur le sexisme. Et en fait, sur la sexualisation, on peut aussi parler de peut-être le fait que les femmes sont souvent la bouche ouverte,
ouais.
Les jambes écartées. Donc ça, c'est quand même des positions très sexualisées. Et on a aussi ce côté qu'elles attendent quelque chose d'un certain côté, et qu'elles ont des vêtements courts, qui sont moulants, qui sont toujours un peu... enfin vraiment dédiée au regard des hommes. Donc nous à RAP, on a vraiment essayé de traiter ce problème à travers un observatoire de la publicité sexiste, donc ce qu'on appelle l'OPS. Donc en demandant aux personnes qui voyaient des publicités sexistes dans la rue de les faire remonter et à travers un formulaire. Et derrière, on les a analysés pour justement montrer. Donc il y en a eu deux de ces observatoires de la publicité sexiste, un en 2019 et l'autre qui a été sorti l'année dernière, en fin d'année dernière. Et justement, on voulait voir s'il y avait eu une évolution de ces publicités. Est-ce que ça avait changé quelque chose? Et finalement, on voit que, en fait, en 2024-2023, on en est toujours au même point. Les représentations dans la publicité sont toujours aussi sexistes. Et j'ai retrouvé, voilà ce que je voulais dire, un autre ressort, c'est de montrer que certaines parties du corps.
Ouais, l'importance du cadrage. Ouais.
Voilà, le cadrage. Donc, des fois, on montre même pas le visage entier d'une femme. Donc, c'est dire à quel point on objectifie les femmes. Et ça, c'est vraiment très, très spécifique au sexisme. Parce que, du coup, c'était le groupe local de Marseille. Ils avaient essayé de faire un petit questionnaire à des personnes dans la rue pour leur faire prendre conscience du sexisme dans la publicité. Donc, en fait, les questions, alors, je les ai plus toutes en tête, mais il y avait notamment, est-ce que vous trouvez cette publicité sexiste, et si la personne disait non, y avait est-ce que vous imaginez un homme dans cette position ou alors en train de faire ça, et qu'est-ce que ça pourrait vous évoquer? Et là, souvent, ça fait réfléchir de se dire « Ah oui, c'est parce que c'est une femme, mais un homme, ça serait vraiment bizarre de le voir avec la bouche ouverte ou dans cette position. Ça serait vraiment très, très, très étonnant, mais en fait, on n'y pense pas tous les jours. » Donc voilà, c'est des petites questions qu'il faut des fois peut-être essayer de se poser quand on voit un panneau publicitaire. Et moi, en tout cas, j'essaye maintenant de souvent faire ce lien, de me dire « Ah, je regarde ce panneau, finalement, c'est pour quelle marque ?» Donc toujours de se dire « Voilà, ça ne parle pas à mon inconscient, je suis en train de repérer quelle est la marque qui fait ça et quel est le ressort, le mécanisme publicitaire qui voudrait être là pour me faire acheter ce produit. »
La publicité, elle est partout autour de nous, dans l'espace public, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Enfin, on ne peut pas y échapper. Et en fait, cette image de la femme hypersexualisée, objectifiée, elle participe à la culture du viol. Les petites filles vont avoir l'impression qu'elles ne sont que des objets comme ça dans la rue. Et les petits garçons peuvent aussi se dire « Mais en fait, toute ma vie, j'ai vu ces corps objets en vente partout autour de moi. » Et donc après, on a tendance à confondre un peu avec les humaines qu'il y a derrière.
Ouais, ça déshumanise de toute façon les femmes, et la figuration d'une femme dans une posture de soumission physique ou une mise en scène esthétisée de violence tend à assujettir les femmes aux positions de subordination ou de victime et à banaliser les violences faites aux femmes. Tu le disais, on est dans une logique de pouvoir, donc on est sur un rapport de domination et on perpétue en fait cette représentation, cet imaginaire à travers la publicité, quoi.
Voilà, finalement, la publicité participe à la culture du viol. Ouais. C'est complètement ça, parce que donc, la culture du viol, qui est ce fait qu'on se dise, bon, ok, c'est normal, il y a des violences qui sont un peu normales, c'est normal de forcer une femme, c'est pas trop grave, tout ça. Et en fait, c'est transmis à travers différents canaux en France, donc notamment le cinéma, hein, sur certains aspects, mais surtout la publicité qui montre que avoir une femme en situation de soumission, c'est quelque chose de normal. Finalement, on le voit tous les jours dans la rue, donc pourquoi ça serait pas normal dans le quotidien, à la maison? Et en fait, la publicité participe aussi à ça, à travers des représentations très stéréotypées, qui sont que c'est la femme qui va faire la cuisine, c'est la femme qui va faire le ménage. Si on veut vendre un aspirateur, on va pas mettre un homme. Ça montre que c'est aux femmes de faire ces tâches ménagères, de s'occuper de ça dans le foyer au quotidien. Et forcément, ça ne va pas faire évoluer la représentation qui est d'un partage égalitaire des tâches qu'on n'atteint pas, hein, et qui ne sera pas atteint, je sais plus les chiffres en tête, mais c'est d'ici 100 ans, je crois.
Ah ouais, ok.
Si on part sur... je crois qu'on a gagné peut-être 10 minutes d'écart en quelques années, donc voilà, c'est...
Ouais. Hétéronormalité et charge mentale. Dans votre rapport, il y a un milliard d'exemples à travers des slogans, des situations, des publicités. Le consentement tacite à la disponibilité de son corps pour autrui. Il y a aussi l'autocontact qui vise à érotiser le corps féminin et dans des positions complètement qui ne sont pas naturelles, des poses aussi, des articulations toujours liées à une espèce de soumission et de consentement possible. L'infantilisation aussi, qui est un ressort en fait publicitaire. Je pense vraiment qu'il faut avoir conscience de tous ces éléments pour analyser, décrypter la publicité, qui renvoie quand même par le visuel quelque chose qui va s'imprégner quand même en nous.
Voilà, du coup, il ne faut pas, surtout pas hésiter à lire les deux rapports sur le publisexisme qui sont sur le site de Résistance à l'agression publicitaire. C'est vraiment très instructif. On parlait tout à l'heure des mécanismes mis à l'œuvre. Il y a aussi beaucoup d'exemples. Donc, ça permet de se rendre compte aussi voilà, qu'il y a une diversité de tactiques sur comment faire vendre un produit et mettre en jeu la soumission des femmes. Donc, ça, c'est quelque chose voilà, qui nous alerte. Et en fait, donc, on en a fait deux. Et on se disait, mais comment est-ce que ça serait possible de continuer ce travail? Est-ce qu'il faut en relancer un encore pour continuer finalement à documenter tout ça, faire un travail justement à long terme pour se dire est-ce que dans 10 ans on retrouvera encore les mêmes mécanismes? Est-ce qu'on fait un peu une documentation de publicité? On se conserve un peu quelques pubs? Bon, après c'est quand même un gros travail d'analyse parce que là on parle quand même pour avoir un travail un peu représentatif de 285 contributions, donc c'est quand même pas mal de boulot. Donc avec quand même certaines marques qui ressortent, hein. C'est surtout le parfum, les vêtements, l'alimentaire un peu aussi qui est quand même sur ces sujets. Et donc en plus de ça, il y avait aussi peut-être de prolonger sur d'autres types de discrimination. Donc ça peut être, donc là on parle de sexisme, mais il y a aussi d'autres corps qui sont pas trop représentés, hein, enfin mal représentés. On en a un petit peu parlé tout à l'heure déjà, le racisme, hein, dans la publicité. Souvent les corps racisés, ils sont montrés que comme faisant du sport. Et ça, pareil, c'est une représentation très stéréotypée parce que c'est un peu associé à la bestialité, à des stéréotypes qui collent aux personnes racisées. Donc ça voilà, c'est aussi un autre chantier qu'on pourrait ouvrir parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Il y a aussi donc, la représentation des personnes LGBT qui est quand même pas du tout mise en évidence. Et puis les personnes handicapées aussi.
Ouais, ça, le validisme.
Le validisme, ouais. Un large spectre de discrimination, mais on en revient finalement au fait que la publicité, elle promeut juste un idéal, un seul corps type auquel il faut ressembler, et donc ça ne peut générer que de la souffrance, puisque personne ne ressemble à ce corps type.